Et tu me gardes le meilleur pour la fin ?
Toujours Mimi, comme le best-of du vendredi.
Il paraît qu'il n'y a plus de saison, il paraît qu'on le dit depuis longtemps, mais que c'est finalement de plus en plus vrai. Les saisons rythmaient quelque chose, aujourd'hui les choses se jouent beaucoup dans les manteaux qu'on ressort ou que l'on range. La réalité c'est aussi que ça se passe ailleurs, il s'agit toujours de détails. Ce qu'on aime dans cette émission, c'est que le détail n'en soit finalement pas un. Ça se joue dans la lumière, le reflet du ciel sur la glace plutôt que sur l'eau. Les saisons n'arrivent jamais d'un coup, elles s'infiltrent, elles passent par le corps aussi, par l'humeur, par les mots qu'on choisit pour les définir, pour les raconter. À la radio, on ne les voit pas, mais on les entend, elles se glissent dans les sujets, dans ce qu'on n'explique pas, dans cet endroit qui n'est plus seulement un studio, mais un passage entre le chaud et le froid. Un moment où l'on s'arrête juste assez longtemps pour se retourner sans se figer. Aujourd'hui, par exemple, vous écoutez votre émission quotidienne, mais je peux vous dire que ce n'est pas seulement un best-of, pas seulement un retour en arrière, c'est une autre saison du même paysage. Tiens, pourquoi pas le dire comme ça ? On vous propose de réécouter, de laisser les saisons parler à notre place et de voir ce qui, dans ces voix-là, continue encore de nous tenir chaud. Je vous propose maintenant de nous replonger dans l'entretien de ce mardi. On était en compagnie de Manon Quignou de la PES 53 et ensemble, on se posait la question : à quoi ressemble une économie qui remet l'humain au centre ? Écoutez.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Peut-on faire de l'économie sans oublier les humains dans un monde traversé par les crises, les urgences, les chiffres qui prennent souvent le dessus sur les visages? Certaines structures continuent de défendre une autre manière de faire société. Depuis 25 ans en Mayenne, l'APES 53, donc l'Association pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, agit pour une économie plus solidaire, plus coopérative, plus humaine. On va prendre le temps aujourd'hui de comprendre ce que recouvre l'économie sociale et solidaire, ce qu'elle change concrètement sur le territoire et ce qu'elle peut encore nous apprendre à l'heure où le sens semble parfois se perdre peut-être. Manon, je suis contente de vous avoir avec nous aujourd'hui pour en parler. Je le disais, vous êtes chargée de projet économie circulaire et transition écologique au sein de l'APES. Peut-être déjà pour commencer, quand on entend économie, on pense souvent argent, chiffres, performance. Si je vous pose la question simplement, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire change dans cette définition-là ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire ?
Alors l'économie sociale et solidaire, il faut savoir qu'elle a toujours existé dans notre société, elle a toujours été là. Elle est forcément basée sur l'humain, sur la collaboration et sur les projets de territoire. Donc elle a toujours été là auprès de nous. On a toujours eu un grand-parent, un parent qui était bénévole dans une association, voilà, dans une fédération sportive. Mais il faut savoir qu'en 2014, du coup, Benoît Hamon, qui était à l'époque ministre, a mis en place une loi qui s'appelle la loi Hamon, qui a permis vraiment d'ancrer l'économie sociale et solidaire autour d'une loi qu'il a vraiment ancrée vraiment juste dans nos habitudes. Et donc, grâce à cette loi, on a pu définir l'économie sociale et solidaire autour de trois grands piliers, qui sont dans un premier temps la gestion démocratique. Quand on a un projet, quand on a une structure qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, on a forcément un mode de gouvernance avec une gestion beaucoup plus démocratique. On a aussi évidemment le cœur de l'activité. Donc si on fait partie de l'économie sociale et solidaire, notre projet doit faire partie d'une manière ou d'une autre, doit répondre d'une manière ou d'une autre à des enjeux sociaux, sociétaux ou environnementaux. Et puis enfin, le plus important qui répond un peu à votre question sur l'économie, le principe de la lucrativité limitée, c'est-à-dire que quand on fait partie ou quand on est dans une structure de l'économie sociale et solidaire, on a une lucrativité limitée. Tout simplement, ça veut dire que l'ensemble de nos recettes doivent être réinjectées directement au sein de notre projet et pas pour enrichir simplement une personne.
L'économie sociale et solidaire repose aussi sur des valeurs fortes, je le disais tout à l'heure, la solidarité, la coopération, l'utilité sociale, en fait, vous venez de le dire. Dans un contexte comme aujourd'hui, avec des crises multiples, pourquoi est-ce que ces valeurs sont-elles plus que jamais nécessaires ?
Bah, nous, on pense vraiment que ces trois grandes valeurs sont quand même les piliers de la résilience. Et on voit bien aujourd'hui que sur nos territoires, qu'on soit une structure, qu'on soit une entreprise privée, qu'on soit une association, une coopérative, qu'importe, on a des vrais problèmes de résilience. On a du mal à faire face aux différentes crises, donc qu'elles soient sociales, sociétales ou environnementales, tout simplement. Et on est certain que mettre l'humain au centre, renforcer la coopération, pour nous, c'est vraiment une des solutions qui permettent vraiment à des territoires de rester debout face à tous ces aléas.
Je pense à l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute et qui peut-être ne se sent pas du tout concerné par ça. L'économie sociale et solidaire, il y a des mots comme ça où on sent un peu distant. En quoi elle impacte déjà son quotidien et peut-être sans qu'il le sache finalement.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que la loi Hamon nous a permis vraiment d'encadrer ce que c'était l'économie sociale et solidaire, mais elle a peut-être aussi apporté un peu de flou parce qu'on a mis des termes juridiques sur un concept en fait qui était juste tout simplement naturel. Alors vous, auditeurs qui m'écoutez, sachez que par exemple, si vous allez à la Biocoop et il se peut qu'elle soit sous forme coopérative. Et puis si vous faites partie d'une association, d'une fédération sportive, n'importe, il se peut que tout ça soit sous forme associative la plupart du temps. Et de fait, en fait, si vous faites partie d'une association, l'association en elle-même, de son statut juridique, fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est déjà une première réponse.
Le territoire mayennais est en fait très très riche en termes de maillons associatifs. Justement, si on revient un petit peu en arrière, pourquoi la paix s'est née il y a 25 ans en Mayenne, quelle est la mission centrale de la PES sur le territoire? Comment ça a évolué depuis ces 25 ans?
Oui, alors effectivement, la PES est née donc en 2000, donc elle a 26 ans, elle vient d'avoir ses 25 ans, mais on est en 2026, donc on peut dire qu'elle a bientôt 26 ans. En fait, elle est née tout simplement d'un besoin local, en fait, de quelque chose d'assez naturel. Il y avait des citoyens qui avaient besoin de faire des projets ensemble et de les valoriser ensemble. Donc voilà, l'association s'est montée donc en 2000. Et puis au fur et à mesure du temps, je suis arrivée à la PES il y a maintenant 2 ans, mais je raconte un petit peu l'histoire de la structure dans laquelle je travaille. On s'est rendu compte qu'il y avait besoin peut-être de se structurer un peu plus autour de tout ça. Et au fur et à mesure du temps, la PES s'est structurée, elle s'est professionnalisée. Elle a eu sa première salariée en 2015. Et voilà, puis sa seconde salariée. Maintenant, nous sommes 3 à la PES. Et notre mission principale aujourd'hui, c'est vraiment de représenter et de valoriser les acteurs de l'ESS. Donc vraiment de densifier ce réseau local avec l'ensemble des acteurs de l'ESS pour travailler ensemble main dans la main et de les accompagner face à leurs différentes difficultés.
Et alors justement, c'est intéressant, vous fédérez des associations, des coopératives, des projets très différents. Quel est le point commun humain ou politique qui relie toutes ces structures ?
Je pense que la réponse est un peu dans votre question, c'est-à-dire que le point commun, c'est vraiment l'humain. Le partage de valeurs et une manière de travailler, une forme de gouvernance, une lucrativité limitée. Et en fait, quand on travaille avec les structures de l'économie sociale et solidaire, on sait pourquoi est-ce qu'on a envie de monter de ce projet et comment est-ce qu'on a envie de le monter. Donc c'est vraiment ça qui nous lie, en fait.
On parle souvent de faire société. En tout cas, j'essaye d'un peu amener ça dans l'introduction de cette émission. Est-ce que l'économie sociale et solidaire, c'est une manière de réapprendre à faire collectif à l'échelle locale? Est-ce qu'il est nécessaire de réapprendre à faire collectif?
Oui, moi j'en suis vraiment intimement persuadée. Je pense que, on l'a dit, vous l'avez dit en intro, et puis on en a déjà un petit peu parlé depuis le début de cette interview, mais on est face quand même à une société qui subit des multiples crises. Donc c'est pas chouette, c'est pas joyeux d'en parler, mais pour moi l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment le moyen d'y faire face. C'est vraiment remettre l'humain en centre, travailler ensemble, réapprendre à travailler ensemble, parce que on a beau dire il faut faire ensemble, il faut faire coopération, c'est pas toujours facile. Une coopération, elle n'est pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des êtres humains qui sont complexes, tous les uns et les autres, et donc c'est hyper important de savoir à travailler ensemble, de faire ensemble, de définir quels sont nos besoins et de savoir comment est-ce qu'on peut, encore une fois je le répète, mais ensemble, répondre à nos besoins de territoire.
Justement, vous êtes au cœur peut-être des problématiques que rencontrent les structures actuellement, les structures faisant partie de cette économie sociale et solidaire. On est dans un monde, on le dit, on le répète, marqué par la compétition, la rentabilité et une certaine défiance avec ce qu'on rencontre aujourd'hui dans notre époque. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de défendre une économie juste basé sur la coopération?
Je peux être que honnête en disant qu'effectivement c'est difficile, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas important. Je pense que ça a toujours été difficile parce qu'en fait à l'époque, dans les années 2000, c'était peu connu, donc c'était difficile parce que c'était peu connu. Aujourd'hui c'est difficile parce qu'on est dans un monde ultra capitaliste effectivement où la compétitivité est de mise, mais je pense que c'est pas parce que c'est difficile qu'on peut pas y arriver. Nous on garde espoir et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours, et en fait on voit très bien sur nos territoires, notamment nous en Mayenne, on a beaucoup de chance parce que vous l'avez dit, on a un maillage territorial avec des acteurs de l'ESS très présents, qui sont motivés, qui arrivent à travailler ensemble. On arrive à faire de grands projets sur le territoire, sur différentes thématiques. Donc c'est difficile, mais on y arrive. Et puis on sait pourquoi on se lève le matin.
Quelles sont les plus grandes peut-être difficultés aujourd'hui que vous voyez revenir régulièrement par rapport à ces structures ? Moi je pense directement au budget. Est-ce que c'est réellement au centre ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que nous on ne perçoit pas forcément ?
Bon, alors oui, effectivement, vous avez visé juste, les difficultés financières et de budget sont quand même au centre des préoccupations des acteurs de l'ESS. Et je pense que, bon, il y a une autre grosse difficulté, c'est le manque de perspective. On ne sait pas trop où est-ce que nos politiques territoriales, nos politiques nationales vont. Donc c'est difficile pour eux peut-être de s'ancrer sur le long terme. On a l'habitude de travailler sur le court terme, ce qui n'est pas hyper rassurant. Donc ça, c'est une des grosses difficultés qu'on a aussi. Peut-être aussi une certaine méfiance de certaines structures, de l'économie plus classique. Enfin voilà, on peut percevoir ça sur le territoire, mais on sent quand même qu'il y a envie de faire. Et pour nous, ça, c'est super positif.
De maintenir l'humain au centre dans une période de crainte, être bienveillant vers l'humain, est-ce que c'est finalement complexe ? Quand on est dans des tensions complexes, des fois au sein des structures, un contexte global, est-ce que finalement c'est aussi un des enjeux importants, j'imagine ?
Oui, bien sûr, c'est carrément un de nos enjeux. Enfin, comme vous le dites, les structures, elles sont composées d'humains. Alors on a beau nous lever le matin pour aller faire notre travail, on a quand même nos propres préoccupations qui sont géopolitiques, écologiques, sociales, sociétales. Donc c'est aussi difficile pour nous, individus, de garder le cap. Mais en fait, l'avantage de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on sait que chacun a ses petites interrogations, mais on sait pourquoi on travaille et on sait pourquoi on veut le faire ensemble sur un projet plus grand. Donc on essaye, en fait, c'est peut-être aussi un moyen de se rassurer, de travailler ensemble sur des problématiques en fait, qui nous concernent tous.
La PES accompagne aussi celles et ceux qui veulent se lancer. Alors qu'est-ce que vous leur dites quand ils doutent, quand ils ont peur que ça ne marche pas ?
Eh bien, c'est normal d'avoir peur que ça ne marche pas, mais que nous, on est justement aujourd'hui là pertinent pour les accompagner sur ces sujets. On a au sein de la PES un incubateur et un pré-incubateur qui permettent en fait d'accompagner les porteurs de projets de territoire. Donc ça peut être quelqu'un individuellement qui a envie de lancer une association, ça peut être un territoire qui a envie de monter un café associatif sur la politique du dernier commerce. Enfin, ça peut être sur plein de sujets différents. Nous, la PES, en fait, on est là pour les accompagner sur différentes problématiques, pour parler de termes très techniques, de business model, de comment est-ce qu'ils vont travailler au quotidien, quels sont leurs enjeux de comptabilité, leurs sujets RH, etc. Donc nous, on est vraiment en appui local là-dessus pour les pousser justement à choisir ce mode économique beaucoup plus vertueux et pour les rassurer et pour les accompagner tout au long de leur projet, quoi.
Si on se projette dans 10 ou 15 ans, à quoi vous rêvez à quoi ressemblerait l'économie sociale et solidaire locale et peut-être le rôle de la PES dans cette histoire-là ?
Le rôle de la PES, je pense toujours le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire continuer à fédérer, à représenter les acteurs de l'ESS. Nous, en fait, on est vraiment là pour les acteurs de l'ESS et les mettre en avant sur le territoire. Après, nous, notre rêve, c'est qu'effectivement, dans quelques années, il y ait de plus en plus d'acteurs de l'ESS, enfin, en tout cas, qui se sentent acteurs de l'ESS, parce qu'on l'a dit, il y en a plein sur le territoire qui font partie de fait de cette économie, mais qui n'en sont pas forcément conscients. Donc c'est peut-être avoir un petit peu plus cette conscience de faire partie de cette grande famille de l'ESS, et puis d'avoir des projets de territoire qui permettent aux acteurs de travailler ensemble, donc et entre acteurs de l'ESS, mais aussi avec des acteurs de l'économie dite plus classique, voilà, je mets des guillemets, mais de travailler ensemble pour répondre à des problématiques territoriales, tout simplement. Nous, c'est vraiment notre objectif.
Quels sont peut-être les événements à venir sur lesquels on peut vous retrouver, la PES, et où est-ce qu'on peut vous retrouver, même au-delà de ça, si notre échange interpelle une structure ou l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute ?
Sur notre site internet, apes53.org, bien sûr, vous avez un certain nombre de contacts et une possibilité de nous envoyer un mail ou de nous appeler si besoin. On a aussi une page LinkedIn qui est quand même très active, apes53, que vous pouvez retrouver du coup sur LinkedIn, et une page Facebook, aussi apes53 pour les auditeurs qui sont un petit peu plus familiers de Facebook. Et puis pour l'année 2026, on a un gros programme. On a décidé cette année de travailler d'autant plus sur les enjeux environnementaux. Donc on va avoir deux, trois gros événements événements auxquels, évidemment, j'invite les auditeurs à venir nous rencontrer, notamment le salon Agir qui va avoir lieu en juin prochain, en 2026, qu'on co-organise avec Laval Économie et la CCI sur notre territoire, en fait, qui va répondre à des problématiques plutôt donc, qu'on appelle de RSE, plus globales, qui répond à des enjeux sociaux et environnementaux. On va avoir aussi en novembre prochain, pendant le mois de l'ESS, une nouvelle édition de notre événement Explore Demain. Voilà, on reviendra vers vous très rapidement avec plus d'informations. Et puis cette année, on a aussi décidé de beaucoup travailler sur les achats responsables, comment un peu conseiller les structures à acheter mieux, plus local, voilà, tout ce qui est autour des problématiques du réemploi, des réparabilités, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment pour la partie environnement, accompagnement à la transition écologique. Et puis, on a aussi la grosse partie, du coup, accompagnement de projet, dont je vous parlais tout à l'heure, avec là, très rapidement, la prochaine session, du coup, de notre pré-incubation en avril, qui va permettre, en fait, à des nouveaux porteurs de projets de pouvoir un petit peu structurer et clarifier leur projet de territoire.
Il est encore temps de s'inscrire pour cette session ?
Bien sûr, il est encore temps de s'inscrire. Vous trouvez toutes les informations sur notre site internet. Et puis, si jamais vous avez quelconque question, vous n'hésitez pas à nous contacter.
Merci beaucoup Manon Tignoux d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, je le rappelle, vous êtes chargée de projets économie circulaire et transition écologique au sein de l'APES. Je pense à l'auditeur qui nous a peut-être rejoint en cours de route. Je rappelle que l'ensemble de l'émission et donc cette interview est disponible ensuite en podcast sur le site de l'autreradio.fr. Merci beaucoup Manon d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'était Sans dire adieu de Omar La Fraise et de Crapaud. Vous écoutez toujours l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Un coup de cœur, ce n'est jamais un hasard. C'est un livre qui vous attendait quelque part, un texte qu'on n'était pas forcément venu chercher, mais qui tombe juste au bon moment. À la librairie Aime Lire Anjou, les livres sont défendus et transmis. Et alors forcément, si je vous le dis, c'est parce que ça se passe aussi un peu sur nos ondes, puisque par exemple aujourd'hui, c'est l'un de ces livres-là qu'on a envie de vous glisser entre les mains avant de retrouver une autre sorte de coup de cœur. C'est celui d'Adèle et de son ami imaginaire. Mais ça, c'est juste après.
Aime Lire Anjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour ! Et oui, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter le nouveau Fabrice Caro. Alors, on ne le présente plus, Fabrice Caro, c'est pour la BD, et Fabrice Caro, c'est pour la littérature, parce que monsieur est un grand écrivain. Eh bien, il va encore nous faire rire avec Les derniers jours de l'apesanteur, son dernier roman aux éditions Gallimard. C'est la collection signée, mais Gallimard est à côté. Eh bien, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore de beau ce Caro ? Il va nous raconter l'histoire d'un lycéen dans sa dernière année. Il est donc en terminale. On commence du mois de septembre jusqu'à la fin de l'année en juin avec les épreuves. Et on va suivre cette dernière année dans cette vie qui est sur une crête. Eh bien oui, parce qu'on est à la fin d'un cursus scolaire où c'est encore très confortable d'être chez papa et maman. Et puis, on suit le chemin. Et puis, on est aussi très proche d'un avenir et de l'inconnu. Et aussi peut-être d'une certaine forme d'autonomie. Eh bien, nous allons suivre notre personnage principal qui va nous faire vivre cette année sous toutes ses coutures. Alors bien évidemment, il est question de cours, mais surtout de fêtes, de rencontres, de divertissements et d'histoires plus ou moins loufoques comme Fabrice Caro aime à nous les raconter. J'ai adoré ce livre parce qu'il m'a fait rire et c'est très rare en littérature de faire rire. Il m'a replongé dans les années 80, parce que vraiment, Fabrice Caro nous plonge dans les années 80. Sur la photo, vous voyez, on voit un gars qui est sur une mobylette, une SP, une Peugeot SP orange. Bah oui, forcément, ça vous parle. Bah oui, oui, moi j'avais la même. Et donc, c'est drôle. Voilà, c'est du Fabrice Caro et il sait toujours aussi bien nous surprendre et nous faire passer d'excellents moments. Je vous rappelle le titre, Les derniers jours de l'apesanteur.
Retrouvez Aime Lire Anjou, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier et sur l'autre radio.
Et nous voilà donc arrivés au moment de la chronique de la petite nouvelle. C'est le grand retour d'Adèle pour cette nouvelle année.
Aïe.
Mais qu'est-ce que t'as, Adèle ? T'as mal à la tête ?
Ah, m'en parle pas, Margot. Les fêtes de fin d'année, la musique et tonton Jaco qui me demande pourquoi je bois pas. Et quand est-ce que tu vas trouver du travail ? Bon, Brigitte Bardot, tu sais, Margot, elle est morte pendant les vacances de Noël. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est pas comme si toutes les radios en parlaient en permanence. Brigitte Bardot, elle était mariée à ton âge. Est-ce que Brigitte Bardot, elle réalisait des chroniques sur l'actualité culturelle mayonnaise, tonton Jaco ? Eh ben, je crois pas, non. Alors, au lieu de parler de bébé blonde, c'est pas bébé brune, mesdames et messieurs, restez à l'antenne parce qu'aujourd'hui, on va sortir les plaids, les tisanes, et on va se mater des bons films à causer le Vivien avec nos enfants, nos frères et sœurs et nos neveux. Charlie, envoie le jingle.
Qu'est-ce que c'est quoi ça ?
C'est quoi ce machin ?
On dirait un micro.
Ça y est, ça recommence.
C'est l'heure de la petite nouvelle. Viens avec nous. On vous présente l'actu culturelle.
Tu sais bien qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça.
Attends, c'est parce qu'en fait c'est une émission où je présente des spectacles, des artistes et tout. Si tu sais pas quoi voir sur la Mayenne, ça peut être sympa. Si tu sais pas quoi écouter aussi.
Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma taille.
4, c'est tout court, c'est le festival du court-métrage organisé tous les ans à Cossé-le-Vivien depuis 2019. C'est pour Cossé, c'est pour cuisine, pour court-métrage et quatre coins de l'écran. C'est pas moi qui l'invente, c'est sur leur compte Instagram. Ah, ça fait beaucoup d'initiales, hein. Eh ben, pas de panique, le festival est tout public. Pas de panique, le festival est tout public. Pas de panique, le festival est tout public. Le dimanche 25 janvier, un ciné-famille sera organisé avec des ateliers ludiques et des projections accessibles pour les plus jeunes de 10h à 17h. C'est gratuit pour les enfants et c'est 5€ par accompagnateur. Oh bah dis donc, c'est pas cher pour 7 heures quand même de diffusion. Bref, ça fait des années que je tanne Charlie pour qu'on y aille. Mais tu m'as rien à faire à Noël, Charlie. Oui, bah, t'es un ami imaginaire, mais bon, tu peux quand même m'offrir des cadeaux imaginaires. Je sais pas, des chocolats imaginaires quand même. Oh. Bon, si vous êtes comme moi, amateur de gastronomie, eh ben, venez le samedi 31 janvier pour un ciné-dîner à 19h. Il y a un ciné-dîner ? Oh, attends, il y a un ciné-dîner ? Il y a 7 heures de court-métrage d'affilée ? Attends, on manquerait plus qu'il y ait, je sais pas, un chanteur, là, comme ça, qui monterait sur les strates pour jouer de la guitare ? Eh ben, ça tombe bien, le chanteur Gêne-lui. Je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, je sais qu'il sera présent durant cette soirée. Alors, écoutez un petit peu sa cover de La nuit, je mens d'Alain Bachung.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire.
N'hésitez pas à l'écouter sur SoundCloud, le chanteur Gêne-lui, je le répète, sera sur scène le samedi 31 janvier à la salle du FCC de Cossé-le-Vivien. Pour participer à cette soirée, c'est 25€ par personne, 20€ pour les moins de 21 ans, pour les étudiants et pour les chômeurs. Bim, dans tes dents, tonton Jaco. Bref, les 4, c'est aussi un temps pour les scolaires du 26 au 30 janvier et peut-être un peu pour les moins scolaires, les travailleurs, parce que le vendredi 30, les cours d'ici proposeront des séances originaires de la région ou de la Bretagne en mode after work. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est sur leur site internet, avec une conversation avec le réalisateur ou la réalisatrice du film à la fin de la séance. Alors vous allez me dire, mais attends Adèle, comment on fait pour réserver? Tu nous l'as pas dit, hein? Oh ça va, je vais vous expliquer. Vous pouvez prendre vos places sur HelloAsso. T'inquiète pas, tonton Jaco, tu peux les prendre par téléphone au 07 66 20 46 02. Bon, allez, je me moque un peu de tonton Jaco, on va te dire que je suis pas vraiment une mordue de la technologie non plus. Bon, en tout cas, il est possible qu'on se retrouve dans les salles obscures pendant ce premier mois de l'année. Alors rendez-vous à la salle du FCC de Cossé-le-Vivien pour une débauche de culture et de cinéma. Merci à l'association Aspro pour ce rendez-vous, pas piquer des hannetons. En tout cas, moi, je vous laisse. J'ai une demi-heure devant moi pour essayer d'éteindre l'ordinateur avant que Margot ne revienne. Alors, il est où le post-it que m'a laissé Margot? Alors, fermez les fenêtres. Les fenêtres de l'ordinateur. Il n'a pas de fenêtre, l'ordinateur. Puis ça ne peut pas être les fenêtres du studio. Je ne les aurais pas laissées ouvertes quand même. Il ferait froid. C'est quoi le démarreur Windows?
Vous avez l'air perdu, Adèle. Je suis de retour. Mais en tout cas, merci beaucoup, Adèle, pour ce grand retour pour cette nouvelle année 2026. Bonne année à toi et à très bientôt.
Belle année aussi, Margot. Et bonne année à tous nos auditeurs et nos auditrices.
À très vite.
Et c'est sur l'autre radio.
On pourrait dire que vous vous êtes laissé un peu avoir. Chaque vendredi, je vous parle du best-of de l'émission quotidienne. Et puis, comme souvent, à la radio, il se passe autre chose. Parfois un peu plus, parfois un peu moins en tout cas. Là, il s'agit d'une voix devenue familière, surtout pour les auditeurs fidèles de l'autre radio, mais pas forcément dans la quotidienne. Oh, vous allez bien le reconnaître, il s'agit bien évidemment de Magnette.
chronique de la planète. Sur l'eau, on fera.
Bonjour, toi. Et plus, bonne année. Avec la pêche indispensable à la clé pour réaliser tes projets, tes rêves. Peut-être as-tu pris ce qu'on appelle encore de bonnes résolutions. Mais comme dit l'autre, cela ne nous regarde pas. J'espère simplement que tu as pu finir l'année et fêter la nouvelle en famille ou entre amis joyeusement, que tu as profité du beau ciel bleu pour prendre l'air frais et que reposé, tu entames 2026 avec le sourire. Nous autres, humains, sommes bien incapables de dormir debout, malgré parfois des histoires qui nous inciteraient à le faire. Mais que nenni, toi, moi et les piafs, c'est pas tout à fait pareil. Les oiseaux dorment debout, et beaucoup d'entre eux, sur un seul pied. Ils gardent au chaud la deuxième patte. Ils roupillent réellement, sans se casser le bec. Comment ça marche ? Comme nous intriguait Machin à la télé jadis. Ou plutôt, comment ça marche quand justement tu ne marches pas? Directrice de recherche au CNRS à Nantes, Christine Chevalereau planche sur ce mystère depuis plus de 5 ans. Une collègue de Paris, biologiste au Muséum national d'histoire naturelle, se questionnait sur le sujet. Christine Chevalereau, elle n'est pas biologiste, mais bosse sur la robotique, et une robotique inspirée du vivant et de ses tenségrités, je ne connaissais pas le terme, tenségrités, et parle de ses structures légères qui restent stables tout en combinant compression et traction. Tu me suis ? Personnellement, je pige mieux avec l'image d'une tente de camping. Et j'ai pas mal pratiqué la canadienne. Je te cause camping, évidemment. Donc, tu tiens le grand piquet vertical qui reste en équilibre grâce aux deux fils tendus de chaque côté. Christine et son équipe de Nantes ont modélisé une patte de piaf pour la plier en souplesse quand celle de l'homme se tient bien droite, comme un bidas au garde-à-vous. Et c'est multiple en vain. Et voilà-t-il pas que l'idée lui vient de rajouter un petit câble au niveau du genou. Eureka ! Ce petit bout de rien du tout correspond à une boucle ligamentaire propre aux oiseaux. Les biologistes ignoraient tout de son rôle. Cette découverte date de 2023, c'est pas très vieux. Et c'est un grand pas pour la suite, quoi. Ben oui, il faut encore chercher pourquoi le volatile ne tombe pas sur les côtés. Déjà, la chercheuse en robotique oriente différemment son travail concernant les articulations jusque-là copiées sur celles de l'homme. Et si on imaginait l'oiseau, se dit celle-ci. Ce dernier, bipède depuis bien plus longtemps que le gus, a optimisé sa condition. On parle là de l'intelligence incarnée, comme quoi il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Cela dit, imiter l'oiseau n'implique nullement à ce que tu ouvres la fenêtre du premier pour t'envoler en 2026. Faut pas déconner non plus. Ça me rappelle ce vieux film, ces fous volant dans leur drôle de machine. Un petit bijou. Topette. Topette pas la gueule à jouer au piaf.
Il y a façon de marcher. Chacun sa façon de marcher. Il n'y a pas de truc comme ça. Par rapport à la robotique. Ah oui, un truc plutôt l'héros. Enfin, marche tout droit. C'était une chanson de Claude François. Marche tout droit. Tu connais pas ça ?
Non. Ouais.
Attends. Cette fille-là, c'est pas pour toi. Marche tout droit. Je sais pas, un truc comme ça, une connerie comme ça. Ouais, si tu veux, ouais, bah, essaye de trouver ça. C'est marche tout droit. Ouais. Oui, c'est ça, ça s'appelle Marche tout. Je crois que c'est ça.
Mmh.
marche tout droit. Cette fille-là fait celui qui la voit pas. Marche tout droit. Cette fille-là fait celui que ça laisse froid. C'est le genre de fille à qui tout le monde fait la cour. Toi ne lui tourne pas autour. Marche tout droit. Cette fille-là, c'est comme ça que tu l'auras. Marche tout droit. Cette fille-là, ne la regarde surtout pas. Marche tout droit. Cette fille-là te ferait perdre ton sang-froid. Elle est bien trop mignonne pour t'y risquer. Tu pourrais pas résister. Marche tout droit. Cette fille-là, elle est vraiment faite pour toi. Marche tout droit, cette fille-là, je suis sûr que tu l'auras. Marche tout droit, mais quand tu l'auras, là c'est elle qui te dira. Les filles sur lesquelles tu aimes bien te retourner, maintenant c'est terminé. Marche tout droit, cette fille-là, ne les regarde surtout pas.
La chronique de la planète sur l'eau contre la mer.
Et voilà, l'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue sur les ondes de l'autre radio et tout le week-end. Mais pour commencer, on va regarder ensemble ce qui nous attend aujourd'hui et ce soir à 19h. Vous retrouverez donc Dance Hall Social Club, le club Oldies de l'autre radio, une émission qui fouille dans les archives, qui ressort les pépites et vous sert quelques sucreries musicales du passé sans modération. Juste après, à 13h, place à Cinérama, une émission qui parle de cinéma, des films à l'affiche, des sorties en DVD ou en VOD, des rencontres, des voix et aussi des jeux pour tester votre mémoire cinéphile à coups d'extraits et de blind test. Évidemment, on est vendredi, donc on peut regarder quand même ce qui nous attend ce week-end, samedi à 13h. Eh bien, ce sera Rock Dreams qui fera un focus sur Vanilla Fudge, suivi de Rock à la Casbah à 18h et Radio Vedette à 19h. Dimanche à 11h, ce sera Sport Épique. Benoît et son équipe sont de retour en 2026, bien sûr. Et si, en fin de journée, le froid est trop présent pour une petite balade dominicale, eh bien, vous pourrez miser sur l'autre radio à 18h avec le voyage radiophonique. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission d'Agité du local. D'ici là, profitez de votre week-end sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Ça marche rarement. Et oui, s'il vous plaît, aussi et surtout, faites-le bien.
Fin de l'émission, mais pas de notre histoire.
Ah ben, surtout pas, Mimi.